Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. 2011 est l'année du bicentenaire de la naissance du fils de Napoléon. Ce roi de Rome, né aux Tuileries le 20 mars 1811, promis à un grand avenir, est mort de phtisie en terre autrichienne à l'âge de 21 ans. Au cours de sa courte existence, il fut tour à tour roi de Rome, Napoléon II, prince de Parme, duc de Reichstadt, et suscita l'enthousiasme, la crainte, la tristesse et la pitié. À peine mort, il donna naissance à une légende qui inspira poète et dramaturge. Le mythe de l'aiglon, surnom que lui donna Victor Hugo en 1852 et popularisé par la pièce d'Edmond Rostand en 1900, irrigua tout le 19e et le 20e siècle. À travers une petite exposition, la bibliothèque Thiers nous invite à revenir sur ce destin tragique de l'aiglon. Sylvie Bié, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureuse de vous accueillir au micro de Canal Académie. Vous êtes conservateur en chef à la bibliothèque de l'Institut et vous êtes également responsable de la bibliothèque Thiers. Comme je le disais à l'instant, la bibliothèque Thiers a décidé de fêter l'anniversaire de la naissance du roi de Rome par une petite exposition qui se tient jusqu'au 30 juin. Que présentez-vous, des documents ou aussi quelques objets ?
Alors un petit peu de tout. Il faut savoir que la bibliothèque Thiers, même si elle est consacrée au XIXe siècle dans son ensemble, depuis la Révolution jusqu'à la Première Guerre mondiale, a un fonds très important sur Napoléon, grâce au legs qu'en fit Frédéric Masson, qui était un historien spécialiste de Napoléon, en 1926. Ce legs a eu lieu en 1926, et donc nous avons un fonds important sur Napoléon. Ce fonds est constitué à la fois d'objets qui ont été longtemps exposés d'ailleurs dans les locaux de la fondation Donne Bibliothèque Thiers et également de livres, 70 000 quand même, c'est assez important, et également plus de 500 boîtes de manuscrits. Donc l'exposition part évidemment essentiellement de ce legs et donc nous avons présenté des livres, des pièces manuscrites, des médailles, des boîtes, de divers objets, des portraits, etc.
Alors on va évoquer maintenant la destinée de ce pauvre roi de Rome, à commencer donc par sa naissance et les premières années. Il naît donc le 20 mars 1811 aux Tuileries. Il est le fils de Napoléon Ier et de sa seconde épouse Marie-Louise d'Autriche. Il s'agit d'un enfant très attendu, n'est-ce pas ?
Ah bien sûr, oui, il naît dans la pourpre et l'or, comme on dit. Donc beaucoup d'objets qu'on présente dans la première vitrine sont justement des objets dédiés au culte impérial. On va trouver des médailles qui ont été frappées pour sa naissance, on va trouver également des gravures qui représentent par exemple le berceau qui a été offert par la ville de Paris. On va trouver des allégories où Napoléon présente à la ville de Rome, personnifié bien sûr, l'enfant, petit roi de Rome, sous les yeux de la ville de Paris, etc. Donc c'est vraiment un culte. Napoléon voulant, en se mariant avec Marie-Louise et en ayant une descendance, refonder une dynastie royale en fait.
Et pérenniser le régime.
Et pérenniser le régime de cette manière-là, oui.
Oui. Les années heureuses vont être de courte durée.
Très courte, puisqu'il y a déjà en 1814 une première débâcle, si on veut. Donc Napoléon est envoyé à l'île d'Elbe et Marie-Louise, avec son fils, partent pour la cour de Frédéric, l'empereur d'Autriche. Elle a peur de subir le sort de Marie-Antoinette, certainement, et donc elle part dans les bagages des vainqueurs. Elle se réfugie à la cour de son père et c'est fini pour le petit roi de Rome. Il ne reverra jamais la France.
Et perdra son titre de roi de Rome.
Alors, après le retour de Napoléon pendant les 100 jours, deuxième débâcle, deuxième abdication. Et à ce moment-là, Napoléon abdique en faveur de son fils. Donc Napoléon va régner, mais une vingtaine de jours, pas plus. Et encore, c'est un règne complètement virtuel, puisque l'enfant a 4 ans, donc personne ne peut parier sur lui, et se trouve à l'étranger, chez les vainqueurs.
Et ne fut jamais reconnu par, par les chambres, je crois. Même.
Ah ben, tout à fait. Donc voilà, c'est en vain.
Donc finalement, c'est à la cour de Vienne qu'il va être élevé.
Tout à fait.
Comment va se passer son existence là-bas ?
Alors finalement, c'est quand même un exil assez doré. D'une part parce que son grand-père, le père de Marie-Louise, est l'empereur et qu'il se prend d'une grande affection. Je crois que là, tous les témoignages sont d'accord. L'empereur aimait réellement son petit-fils qui a trouvé auprès de lui un père de substitution. Et puis, évidemment, c'est l'empereur. Il ne peut pas non plus s'en occuper tous les jours, etc. Parallèlement, sa mère va partir dans ses possessions italiennes, donc va pas être très très présente. Et en plus, on va le séparer assez tôt de son entourage français.
Oui, parce qu'au début, il est avec son entourage français.
Tout à
fait. Présenté d'ailleurs dans l'exposition.
Voilà.
Un document de Madame de Montesquieu, sa gouvernante.
Voilà, qui explique quels sont les habits que l'on doit transporter de France à Vienne, par exemple. Donc, elle est présente, elle est encore en action. Mais au bout d'un an, je crois que c'est un an. Eh bien, elle doit repartir en France. Elle n'est pas autorisée à rester. Et petit à petit, on va le séparer aussi de sa nourrice, on va le séparer de tous ses serviteurs français. Et donc, son entourage est purement autrichien et, bon, assez formel.
Donc, il est élevé à la cour de son grand-père, l'empereur d'Autriche. Très vite va apparaître l'image d'un prince romantique.
Oui, oui. Là, je crois que c'est lié à toute une légende qui s'est bâtie autour de lui, une légende plus française. Mais si on lit les témoignages de son entourage autrichien, notamment de Prokesh, qui était à la fois son confident, son ami, un petit peu plus âgé que lui, et qui est un officier d'origine allemande, on s'aperçoit qu'il n'était pas malheureux, il n'a pas été, maltraité, ça c'est certain. C'est certain qu'il y avait une surveillance, c'est certain aussi. Le rôle de Metternich est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'à la fois, il considérait que l'aiglon était une sorte d'atout dans sa manche. Il pouvait peut-être en jouer auprès des cours européennes et puis de la France, en fonction de la manière dont on votait ou dont le régime changeait, notamment lors de la révolution de 1830. Là, il y avait une opportunité éventuelle. En fait, l'aiglon n'a pas été maltraité et il pouvait ambitionner une certaine influence politique. Mais sans doute est-il mort trop tôt pour que cette influence ait pu...
Et surtout, du côté français, certains Français ont essayé d'établir des contacts avec lui en Autriche. Il a toujours repoussé ses contacts. En 1818, il devient duc de Reichstadt.
Voilà.
On a l'impression que c'est un prince allemand désormais.
Oui, disons qu'il est vraiment élevé comme un archiduc autrichien, ça c'est certain. Ceci dit, il parle français, puisque finalement à la cour de Vienne, beaucoup parlaient français. C'est quand même encore une langue très pratiquée dans les cours européennes. Et puis, il n'a jamais été séparé, enfin, on ne lui a jamais empêché de lire des livres sur son père. Il y a une légende qui veut qu'on l'ait empêché de connaître son père, etc. Ça, c'est faux, par contre. Il avait dans sa bibliothèque tout ce qui avait pu paraître sur Napoléon. Donc, ça, de ce côté-là, c'est...
Donc, une vitrine est consacrée, d'ailleurs, aux années autrichiennes, à ces années du duc de Reichstadt. On voit un Reichstadt, en effet, très romantique.
Oui, oui. Je crois que celui qui a entraîné cette légende, c'est un poète qui s'appelle Barthélemy, qui avait écrit sur Napoléon, qui voulait présenter son œuvre au fils de Napoléon, et qui, d'après ce qu'il raconte, en a été empêché par l'entourage du jeune homme, du duc de Reichstadt. Et donc, c'est lui qui a propagé ensuite cette légende dans un poème qui s'appelle « Le fils de l'homme », où il raconte que l'enfant pâle. Enfin, il le décrit tel qu'on va le voir ensuite jusqu'à l'aiglon de Rostand, c'est-à-dire un jeune homme mince, pâle, tout de blanc vêtu, coupé de son passé français, etc. C'est peut-être un peu exagéré malgré tout. Mais on se rencontre aussi, c'est une période romantique, et donc ce personnage un peu joué du destin est vraiment tout à fait le personnage romantique par excellence.
Il finira presque par porter ombrage à la légende du père.
Oui, peut-être pas tout à fait, mais n'empêche que ça fait partie effectivement de la légende du père, c'est vrai.
Il meurt donc le 22 juillet 1832 à Vienne de tuberculose. Plusieurs documents relatifs à sa maladie et à sa mort sont présentés. Il faut dire qu'en France, cette mort alimenta une large polémique.
Bien sûr, oui, on a tout de suite accusé la cour de l'avoir, sinon directement empoisonné, du moins d'avoir contribué par la manière dont on l'élevait à son étiolement, etc. Je crois que là aussi, les médecins qui ont pu l'ouvrir après sa mort, enfin, on dit qu'il avait poussé trop vite et que ses poumons étaient trop étroits, trop... Enfin, Il y a des causes médicales à sa mort.
Oui, quoi. Vous présentez un document d'ailleurs
de médecin, de Malfatti, qui était un de ses médecins. Bon, puis il a fait aussi quelques imprudences. Il voulait mener une vie normale d'un jeune homme de son époque, courir à cheval par tous les temps, devenir officier. Il avait commencé un entraînement d'officier, c'était quand même assez physique. Et donc, c'était incompatible avec sa faiblesse constitutionnelle, je crois.
Alors, un dernier épisode se rattache à son destin tragique, c'est celui du retour de ses cendres aux Invalides.
Oui.
Qui fut ordonné par Hitler en 1940.
Voilà, exactement. Oui, c'est le dernier épisode. Hitler pensait ainsi s'attirer la sympathie ou l'accord du peuple français. Et il n'a pas réussi son but. Hein. Le retour des cendres du duc d'Arenstadt s'est fait dans un relatif silence. Il n'y a pas eu une grande portée symbolique.
En plein milieu de la nuit, sous un
voilà,
froid glacial.
Absolument, oui, oui, en présence surtout des troupes allemandes. Et enfin, c'est ainsi quand même que le corps de l'Aiglon a retrouvé le sol français d'une part, et puis est enterré maintenant près de celui de son père.
Merci beaucoup Sylvie Bien d'être venue au micro de Canal Academy. Je rappelle que l'exposition du roi de Rome au duc de Reichstag est visible à la bibliothèque Thiers tous les jeudis et vendredis après-midi jusqu'au 30 juin.
Voilà.
Merci infiniment. Au revoir.
Merci.